Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera avec la rupture entre le Rwanda et la Belgique. La rupture des relations diplomatiques décidée par Kigali qui réagit ici aux sanctions européennes. Vous entendrez d'ailleurs la position de Kigali et celle de Bruxelles également. Et puis on reviendra sur ce dialogue avorté, les toutes premières discussions qui étaient annoncées aujourd'hui entre le gouvernement de RDC et l'AFCM23. La guerre au Soudan et cette mise en garde du général Hemeti, il menace d'intensifier encore le conflit alors que l'armée revendique une nouvelle avancée à Khartoum. L'inquiétude ensuite des proches d'Aristide et Clarisse Sayo, le frère et la sœur du chef rebelle centrafricain Armel Sayo. Ils sont tous deux détenus à Bangui depuis 2 mois alors qu'ils ne seraient pas impliqués dans la vie politique selon leurs proches. Un rapprochement annoncé entre le Congo-Brazzaville et Cuba. Les deux pays souhaitent redynamiser leurs relations qui se portaient bien du temps de l'Union soviétique. Et puis le ras-le-bol des habitants de Yaoundé, la capitale camerounaise, où la gestion de la voirie laisse manifestement à désirer. Le Premier ministre tirait la sonnette d'alarme récemment. Nous irons sur place pour entendre ce qu'il en est. Le Rwanda avait déjà suspendu sa coopération bilatérale sur le développement avec la Belgique le mois passé et Kigali va donc plus loin en décidant désormais la rupture officielle des relations diplomatiques. Il s'agit ici d'une réaction face aux sanctions qui agacent les autorités rwandaises. À l'heure où l'Union européenne adoptait justement hier de nouvelles sanctions contre 9 responsables rwandais pour le soutien apporté à l'AFCM23 dans l'est de la RDC, eh bien la Belgique est perçue comme un moteur de ces sanctions en Europe. À Kigali, correspondance de Lucie Mouillot.
Dès l'annonce de cette réunion, des signaux indiquaient déjà que la date du 18 mars serait compliquée à tenir. Le premier accro, l'AFCM23 affirmait avoir découvert le communiqué de la médiation sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'invitation officielle envoyée par l'Angola est arrivée, mais elle était adressée à Bertrand Bissimois en tant que président du M23 et non à Corneille Nanga, le coordonnateur de l'AFC. Un détail loin d'être anodin, car dans sa réponse, Bertrand Bissimois a tenu à clarifier la position du mouvement. Dans une lettre adressée hier au chef de la diplomatie angolaise, il rappelle que le M23 fait partie intégrante de l'AFC et que seule cette dernière est habilitée à mener les négociations directes. Puis, il y a eu les sanctions européennes. Tombées hier, elles visent notamment plusieurs dirigeants de l'AFCM23, une nouvelle qui, selon le mouvement, n'a fait qu'envenimer la situation. Dans son communiqué, il accuse, je cite, « certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix et de rendre impossibles les discussions ». Alors, cette réunion est-elle seulement reportée? Rien ne semble l'indiquer pour l'instant. Le mouvement affirme que dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. Il annonce donc mettre fin à sa participation au processus.
Voilà, vous venez d'entendre Patient Ligodi qui revenait sur une réunion de l'EAC, de la SADC, les communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe qui se réunissaient à Harare sur la situation dans l'Est de la RDC. Et ces discussions donc qui ont été avortées, on y reviendra un petit peu plus tard, réaction avortée entre le M23 et le gouvernement de RDC. En attendant, je vous propose tout de suite de s'intéresser à la réaction de la Belgique face à la rupture des relations diplomatiques décidée hier par le Rwanda. Bruxelles a annoncé des mesures réciproques. Bruxelles qui justifie sa position. Pourquoi elle a réclamé des sanctions contre Kigali? Écoutez la réaction et les explications du chef de la diplomatie belge, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot.
La volonté de la Belgique n'a jamais été de stigmatiser ou d'affaiblir le Rwanda, mais plutôt d'éveiller les consciences internationales face aux jeux troubles qu'il joue à l'est du Congo. Nous n'avons qu'une seule boussole, à l'est du continent européen comme à l'est du Congo, c'est de dénoncer tous les actes de violation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire d'État souverain. La RDC n'est pas exempte d'efforts à réaliser en matière de bonne gouvernance, mais ça ne peut de toute manière pas servir de prétexte un État voisin pour décider en sous-main d'aller porter atteinte à son intégrité et d'aller commettre des exactions problématiques sur le territoire d'autrui. La manière dont le Rwanda se comporte est juste le reflet de sa volonté de ne pas s'inscrire dans un schéma de dialogue. Visiblement, le Rwanda a choisi de s'enfermer dans ses propres convictions biaisées en omettant de voir qu'au-delà de Bruxelles, c'est toute la communauté internationale et aujourd'hui l'Europe qui décide de prendre des sanctions vis-à-vis de son attitude.
Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, au micro de Pierre Benazé. On y vient justement à cette réunion hier à Harare au Zimbabwe. Les ministres des Affaires étrangères de la SADC, le AC, s'y sont donc retrouvés pour parler de l'Est de la RDC. Rencontre qui devait précéder normalement des discussions inédites annoncées pour aujourd'hui à Luanda entre le gouvernement de RDC et l'AFCM23. Les autorités congolaises, pour la première fois, avaient accepté ce dialogue direct, mais la plateforme politico-militaire n'a finalement pas fait le déplacement. On l'a compris avec Patient Ligodi tout à l'heure. L'AFCM23 affirme entre autres que les sanctions européennes ont envenimé les choses. Or, pour le politologue Trésor Kibangula, analyste au centre de recherche congolais Ebouteli, cela démontre une chose, c'est à quel point ces négociations sont difficiles.
Chaque fois qu'un cadre des négociations semble se stabiliser, il y a un élément qui vient toujours rabattre les cartes. Cette fois-ci, ce sont les sanctions ciblées de l'Union européenne qui ont provoqué ces retraits. Mais je pense que cela pose aussi un problème fondamental, c'est-à-dire à quel point ces sanctions ont-elles vraiment une incidence sur la dynamique des sorties des crises. Kigali et l'M23 avaient depuis longtemps insisté sur la nécessité des négociations directes. Et finalement, au moment où celle-ci semblait possible, l'M23 se retire. Il y a aussi du côté de l'M23 une volonté de ne pas donner l'image d'un groupe qui négocie sous pression, alors que sur le terrain militaire, ses positions sont solides. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi un message beaucoup plus large à destination des acteurs internationaux pour leur dire que finalement, cette pression internationale exercée contre Kigali et les Rwandais sont considérés ou sont perçus comme des actes hostiles.
L'analyse de Trésor Kibangula en RDC. Il a mis fin à une longue absence au Soudan. Le général Emmet Till, le chef des paramilitaires des forces de soutien rapide, qui est dans une guerre civile contre l'armée régulière depuis avril 2023. Il a fait sa réapparition dans une vidéo, le général Emmet Till, à l'heure où l'armée soudanaise revendique une nouvelle avancée, notamment à Khartoum. À l'heure donc où les FSR accusent des revers, le général Emmet Till menace d'élargir la guerre Ouda Ibrahim.
Malgré les avancées de l'armée soudanaise, le général Mohamed Hamdan Daglo, alias Emmet Till, à la tête des forces de soutien rapide, jure que ses troupes ne se retireront pas de la capitale. Il menace d'élargir le front de guerre à l'état du Nil bleu et à l'est du Soudan, là où se situe actuellement la capitale administrative du pays, à Port-Soudan, sur la mer Rouge. Il promet à ses troupes une proche victoire. Ses forces, affirme-t-il, sont déterminées et ne reculeront pas devant l'armée.
Si Dieu le veut, nous serons victorieux. La guerre dure depuis presque 2 ans et vous résistez toujours. L'armée a perdu entre 60 et 80% de ses aviations et nous allons nous débarrasser de cette bande au pouvoir. Nous n'allons pas les laisser ni à Chandi, ni à Adbara, ni à Marwa, ni à Daba, ni à Dandaro. Nous allons avancer vers les villes de l'Est. Nous ne laisserons pas notre peuple à l'Est du Soudan sous leur pouvoir. Vous allez voir la victoire. Inch'Allah, prochainement.
Selon plusieurs observateurs, ce menace du général Daglo indique qu'il pourrait recevoir des armes nouvelles et sophistiquées qui pourraient faire entrer la guerre dans une nouvelle phase. Le chef des FSR a mis en garde par ailleurs le pays et dont l'armée soudanaise. Il a remercié le Kenya, je cite, un état démocratique exemplaire, pour avoir accueilli la signature de la constitution de transition entre les FSR et leurs alliés soudanais.
Ouda Ibrahim, l'inquiétude à présent des proches d'Armel Sayo, ce chef rebelle centrafricain arrêté en début d'année au Cameroun. Et dans la foulée, son frère, sa sœur, Aristide et Clarisse Sayo, étaient eux aussi interpellés, mais à Bangui. Depuis, aucun motif n'a été communiqué pour leur arrestation et leurs familles, comme leurs avocats, s'en inquiètent. François Mazé, ils affirment qu'aucun des deux ne mène d'activité politique.
Selon son conjoint, Clarisse Sayo est hospitalisée sous garde stricte depuis un mois au centre hospitalier universitaire de Bangui. Si sa tante et une de ses cousines peuvent lui apporter de la nourriture, ses avocats n'ont pas accès à leurs clientes, mais ils espèrent obtenir prochainement une évacuation sanitaire, alors que ses médecins ont dû s'opposer à son retour dans les cellules de l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB où se trouve toujours son frère Aristide. Le 17 janvier dernier, il venait de rendre une visite de courtoisie au directeur général de la police, bienvenus au Koué lorsqu'ils ont été arrêtés. Quelques heures plus tôt, c'est leur frère qui avait été appréhendé à l'aéroport de Douala. L'ex-ministre Armel Sayo a monté un nouveau groupe rebelle en mai 2024. Toujours détenu au Cameroun, Bangui voit en lui une menace sérieuse et demande son extradition sans réussite jusque-là. Selon des membres de la famille, les liens au sein de la fratrie sont distendus depuis qu'Armel Sayo a choisi de reprendre les armes. Et ni Clarisse, ancienne ministre qui gère une épicerie en France, ni Aristide, gendarme en retraite, n'ont actuellement d'activité politique. Aucune garde à vue ni élément d'enquête ne leur ont d'ailleurs été notifiés en 2 mois.
Ajoutons, François Mazet, que vous avez contacté le procureur de la République à Bangui pour solliciter une réaction, mais celui-ci a mis en avant son obligation de réserve pour décliner ici tout commentaire. Une relation à présent qui renvoie à l'âge d'or du marxisme-léninisme de l'Union soviétique et de l'internationale communiste. Le Congo-Brazzaville souhaite en effet relancer ses relations avec Cuba, des relations qui étaient au beau fixe et au plus fort dans les années 1960-1970. Il s'agit donc aujourd'hui de les raviver, ces relations dans un monde qui a évolué. Et pour cela, Loïcia Martial, le premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, a débuté hier soir une visite de 72 heures à Brazzaville.
Le premier ministre cubain est arrivé en compagnie de son épouse par un vol régulier d'Air France. Selon le programme officiel, il doit échanger ce mardi matin avec le premier ministre congolais Anatole Kone Makoso. Il aura ensuite des entrevues avec les dirigeants des deux chambres du Parlement avant de boucler sa tournée des hauts responsables congolais avec le président Denis Sassou Nguesso. L'objectif de cette visite est de redynamiser les relations entre les deux pays très proches à l'époque où ils étaient tous les deux marxistes-léninistes et dans le camp de l'URSS. Leurs liens étaient étroits, au point où le Congo avait servi de base arrière pour l'intervention militaire de Cuba lors de la guerre d'indépendance de l'Angola dans les années 70. Une coopération qui s'était également déclinée sur le plan médical, l'éducation, avant qu'elle ne baisse drastiquement. Nous voulons relancer la coopération entre les deux pays. Selon une source contactée par RFI, cette visite est la première d'un responsable cubain depuis plusieurs décennies. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Allez, un casse-tête maintenant sur RFI. Un casse-tête qui concerne bien des agglomérations du continent. La gestion de la voirie, la gestion de l'espace urbain qui reste souvent problématique. On le voit ce matin dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Le premier ministre camerounais, Joseph Dion Guth, s'en est récemment alarmé en plein conseil de cabinet réunissant tout le gouvernement. Et les habitants, les premiers concernés, eux, en ont ras-le-bol. Entre mauvais état des routes, éclairage public insuffisant et surtout les déchets qui jonchent les rues, c'est un reportage signé Polycarpe Samba.
Au lieu du pont de la gare à 500 mètres environ du centre-ville de la capitale, se dresse une poubelle qui a déjà littéralement fondu dans le décor. Du trottoir à la chaussée, les immondices s'étalent sur plusieurs mètres, au grand désarroi des riverains.
On a honte, nous autres, nous qui avions fait les voyages à travers le monde. Nos dirigeants vont à l'extérieur, alors qu'eux-mêmes, dans leur propre pays, ne peuvent pas mettre la propreté. C'est la honte.
Je trouve la ville de Yaoundé excessivement sale. Même les villages ne sont pas comme ça, là.
Autre lieu, cette fois au quartier Olezoa.
Vraiment, mes frères, vous voyez que c'est invivable ce que vous voyez là. Les voitures n'arrivent plus à évoluer. Les piétons n'arrivent plus à évoluer sur le trottoir. C'est invivable, on ne comprend plus où on va. Cette poubelle est devenue notre star ici au quartier.
Pourtant, au milieu du tas d'immondices, une plaque de la communauté urbaine invite les populations à ne pas jeter là leurs ordures.
Vous voulez que la population fasse comment? Que l'on fasse comment?
Il faut d'abord aménager des coins où jeter des ordures avant de poser des plaques qui interdisent à la population de ne plus jeter ou de ne pas déposer les ordures à cet endroit.
Au quartier Mélène, Brigitte, qui tient une boutique à côté d'une poubelle de même nature, s'alarme des odeurs insupportables.
Mais je n'arrive pas à manger ici. Comme là où je suis là, j'ai faim, mais je ne peux pas manger au regard des odeurs que la poubelle là dégage. Je ne peux pas m'alimenter ici. C'est compliqué.
Aux quatre coins de la capitale, les Yaoundéens se désolent du visage que renvoie aujourd'hui leur ville en pointant du doigt les autorités municipales, dont 7 maires d'arrondissement et un maire de ville. Pour les Carpesomba Yaoundé, RFI.
Et c'est donc à Yaoundé que se referme notre journal. Mais restez avec nous, bien sûr. La matinale continue sur RFI. Et c'est en très bonne compagnie puisque c'est avec Andréane Mélard que vous retrouvez tout de suite.